Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1785. Fondement de la métaphysique des mœurs est un traité de philosophie morale dans lequel Kant cherche non pas à fournir un catalogue de règles concrètes, mais à établir le principe suprême qui rend une obligation morale valable. Son enjeu est de dégager la morale des intérêts, des sentiments, des habitudes sociales et du calcul des conséquences. Kant part des jugements ordinaires sur le devoir, puis élabore une conception rationnelle de la loi morale, avant de relier cette loi à la liberté et à l'autonomie de la volonté. Le livre expose ainsi les notions de bonne volonté, de devoir, de maxime, de loi universelle, de dignité et de personne comme fin en soi. Sa démarche est rigoureuse et progressive, mais devient plus spéculative dans sa dernière partie. Texte central de éthique déontologique. Il constitue une étape préparatoire essentielle vers la critique de la raison pratique et demeure une référence majeure pour penser la responsabilité morale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la bonne volonté comme seule valeur morale sans condition. Kant ouvre le traité par une thèse décisive, ni intelligence, ni courage, ni bonheur, ni réussite ne sont bons sans réserve. Ces qualités peuvent servir des fins mauvaises si la volonté qui les dirige manque de rectitude. La bonne volonté seule possède donc une valeur intrinsèque, indépendamment de ses effets. Cette idée rompt avec une appréciation courante des actes qui les mesurent selon leur efficacité ou leurs résultats visibles. Une personne peut échouer dans une entreprise juste sans perdre toute valeur morale, tandis que la réussite obtenue par fraude ou manipulation ne devient pas bonne parce que ses conséquences paraissent utiles. Kant ne nie pas que le bonheur soit désirable, mais il refuse de le placer au fondement de la moralité. La raison humaine ne reçoit pas principalement pour fonction de garantir notre bien-être, car instinct pourrait souvent mieux assurer la conservation et la satisfaction. Sa destination pratique est plutôt de former une volonté capable de se déterminer par des principes. Cette priorité de intention explique la place accordée au devoir le mérite moral ne dépend pas seulement de ce qui est fait, mais de la raison pour laquelle cela est fait. Le livre impose ainsi une distinction exigeante entre valeur pratique, succès et valeur proprement morale. Deuxièmement, le devoir distingue une action moralement juste de son véritable mobile. Kant distingue avec soin action conforme au devoir et action accomplie par devoir. Dans les deux cas, le comportement extérieur peut être identique. Un commerçant peut pratiquer un prix honnête, un individu peut aider autrui, une personne peut préserver sa vie. Pourtant, la valeur morale ne réside pas automatiquement dans cette conformité. Si le commerçant agit avec honnêteté uniquement pour conserver sa clientèle, son geste reste prudent et intéressé. Si une personne secourt autrui seulement parce que cela lui procure du plaisir, son action peut être aimable, mais son fondement demeure une inclination. Agir par devoir signifie agir par respect pour la loi morale, même lorsque désir, avantage ou émotion ne soutiennent pas le choix. Kant ne condamne donc pas les sentiments bienveillants. Il refuse simplement de leur attribuer une autorité morale universelle, puisque leur présence varie selon les personnes et les circonstances. Cette analyse rend compte de situations où il faut accomplir ce qui est juste malgré une forte résistance intérieure. Elle évite aussi de confondre moralité et réputation sociale. Une action estimée par le public peut être commandée par intérêt, tandis que le devoir peut exiger un acte discret et coûteux. La thèse kantienne déplace ainsi examen moral depuis apparence de acte vers la maxime, soit le principe subjectif qui guide la volonté. Troisièmement, impératif catégorique et test de universalisation des maximes, la seconde partie du livre distingue deux formes de commandement rationnel. Un impératif hypothétique indique le moyen nécessaire pour atteindre une fin choisie, qui veut obtenir un certain résultat doit employer certains moyens. Sa force dépend donc du but recherché. Les conseils de prudence et les règles techniques appartiennent à cette catégorie. Impératif catégorique, au contraire, commande sans condition préalable, il ne dépend ni d'un désir particulier, ni d'un projet personnel, ni d'un bénéfice attendu. Kant en formule le principe sous la forme de universalisation, il faut agir seulement selon une maxime que l'on puisse vouloir en même temps comme loi universelle. Le test ne demande pas si tout le monde approuverait effectivement une conduite, mais si le principe de cette conduite pourrait être voulu de manière cohérente pour tous les êtres raisonnables. Une promesse mensongère, par exemple, détruit la pratique même de la promesse si elle devient règle universelle, puisque plus personne ne pourrait croire aux engagements. La méthode vise donc les maximes plutôt que les conséquences isolées. Elle oblige chacun à expliciter la règle implicite de son acte et à vérifier si elle introduit une exception réservée à son propre intérêt. Sa portée est considérable, la moralité devient une exigence de cohérence rationnelle et de législation valable pour tous. Quatrièmement, humanité comme fin en soi et fondement de la dignité, une autre formulation essentielle de l'impératif catégorique demande de traiter humanité, dans sa propre personne comme dans celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Kant ne soutient pas que toute relation utilisant les services de autrui soit immorale. Dans un échange de travail, de soins ou de commerce, les personnes sont souvent des moyens réciproques pour atteindre des objectifs légitimes. Le problème surgit lorsqu'une personne est réduite à un instrument, trompée, contrainte ou sacrifiée, sans que sa capacité de décider soit respectée. Cette formulation donne une portée concrète au principe moral mentir pour obtenir un avantage. Exploiter une vulnérabilité ou manipuler un consentement traite autrui comme une chose disponible. La valeur de la personne ne dépend alors ni de son utilité sociale, ni de ses talents, ni de son rang. Elle possède une dignité là où les objets ont un prix et peuvent être remplacés. Cette idée a exercé une influence durable sur les conceptions modernes du respect, des droits et des limites imposées aux institutions. Elle comporte aussi une exigence envers soi-même. Chacun doit préserver sa propre qualité de sujet moral au lieu de se traiter comme simple outil de plaisir, de profit ou de survie. Kant fait ainsi de la rationalité pratique la base d'une égale considération entre personnes. En dernier lieu, autonomie, liberté et difficulté finale de la fondation morale, le principe suprême de la moralité est pour Kant autonomie de la volonté. Une volonté autonome ne reçoit pas sa loi de ses désirs, de la pression sociale. De la recherche du bonheur ou d'une autorité extérieure, elle se donne elle-même une loi rationnelle universelle. Cette autonomie ne signifie donc pas permission de faire tout ce que l'on veut. Elle désigne au contraire la capacité de vouloir selon une règle que tout être raisonnable pourrait reconnaître. Kant nomme hétéronomie toute doctrine qui place le fondement du devoir dans un objet ou dans un mobile extérieur à la volonté, même si cet objet semble élevé, comme perfection personnelle ou volonté divine. La dernière section relie autonomie à la liberté. Si un sujet est moralement obligé, il doit pouvoir se considérer comme libre de ne pas être entièrement déterminé par ses inclinations sensibles. Kant examine alors la double condition humaine comme être sensible, individu appartient au monde des causes naturelles. Comme être raisonnable, il se pense aussi membre d'un monde intelligible où la volonté peut être libre. Cette articulation est la partie la plus difficile du livre. Kant reconnaît les limites de la connaissance spéculative, la liberté ne se prouve pas comme un fait observable. Toutefois, elle doit être pensée comme condition de intelligibilité de obligation morale. La difficulté fait partie de l'ambition du texte fonder le devoir sans le réduire à un phénomène psychologique. En conclusion, fondement de la métaphysique des mœurs convient en priorité aux étudiants en philosophie, aux lecteurs intéressés par éthique normative et aux professionnels qui souhaitent examiner les principes derrière des décisions impliquant responsabilité, respect ou justice. Sa lecture demande de la lenteur, surtout dans la troisième partie, mais elle apporte des outils intellectuels précis distinguer un mobile intéressé d'un devoir. Identifier la maxime implicite d'une décision, tester une règle par universalisation et évaluer si une personne est réduite à un simple instrument. Ces outils ne livrent pas mécaniquement une réponse à chaque dilemme contemporain, mais ils obligent à clarifier les raisons invoquées pour agir. Le livre se distingue des morales centrées sur bonheur, utilité ou sentiment moral par son projet de fonder obligation sur la raison seule. Il ne cherche pas principalement à maximiser les bons résultats ni à décrire les mœurs observées. Il cherche les conditions qui permettent de dire qu'un acte mérite respect moral. Cette ambition explique son abstraction, mais aussi sa force durable. Comparé à un manuel de cas pratique, le texte offre peu de recettes et exige un effort conceptuel plus soutenu. Comparé à des traités moraux plus prescriptifs, il propose une architecture fondamentale autonomie, universalité et dignité. Sa singularité tient enfin à la liaison étroite entre liberté-obligation, où obéir à la loi morale ne signifie pas se soumettre à une force étrangère, mais exercer sa rationalité comme être libre. Si vous souhaitez soutenir Emmanuel Kant, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.